Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4. Et nous allons ensemble lire les versets 13 au verset 17. Vous y êtes? Très bien. Espérant que tout le monde est debout dans sa sainte présence. Nous lisons. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. De façon fidèle, je viens devant ton Saint-Trône te demander ce soir, Père, une fois de plus, de me donner les mots adéquats, le langage qui sied, les illustrations qui vont convenir, Éternel, à faire comprendre, à faire passer ton message. Et que toutes les personnes qui m'écoutent soient totalement, je dis totalement, Éternel, éclairées dans leur homme intérieur, qu'aucune ombre des ténèbres ne subsiste au nom puissant de Jésus, afin que plus jamais ton nom soit exalté. Je te loue pour ta parole qui est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise trois amens de foi. Tu peux t'asseoir dans sa merveilleuse présence. Souvenez-vous que le premier jour de ce séminaire, nous avons introduit ce thème au-delà de la loi par un sous-thème et la promesse engendra la loi. Et nous avons dit que la raison pour laquelle Dieu remit la loi à Moïse sur le mont Sinaï, c'était en réponse à la promesse ferme, inéluctable, irrévocable, qu'il avait faite à Abraham quand il a juré par lui-même, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et nous avons vu que cette promesse, pour s'accomplir, a donc dû transiter par la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Cependant, la promesse avait deux axes majeurs, car il lui était dit à Abraham ceci: quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, je rendrai ton nom grand, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira, et je ferai de toi, et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Et nous avons donc vu que Dieu a promis que une grande nation allait sortir de la vie d'Abraham. Et c'est ainsi que Dieu a donc établi la nation juive. Et donc, en établissant cette nation, Dieu répondait clairement à Abraham, ou alors il tenait sa promesse à l'égard d'Abraham. Sauf qu'il n'avait pas dit à Abraham que seule la nation allait être bénie, mais il avait ajouté que toutes les familles de la terre allaient être bénies en Abraham. Parlant de toutes les familles, de toutes les nations, de toutes les ethnos, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les tribus, Dieu était en train de dire que par Abraham, le plan de rédemption devait être mis en marche pour permettre à tous les hommes qui ont été privés de la gloire de Dieu par le péché d'Ève et Adam d'avoir à nouveau accès à la vie et de régner à nouveau sur la terre des hommes. C'était donc le plan magistral de rédemption qui était mis en marche par l'être le plus intelligent et le plus sage que l'univers n'a jamais connu, notre Dieu. Alors le peuple juif qui attendait la promesse de son Dieu a commencé à vivre justement sous cette loi qui tenait le peuple extrêmement captif. Sauf que cette loi ne découlait pas de la loi. Cette loi découlait de la promesse qui, elle, a été saisie par la foi. Et c'est parce qu'un homme eut foi en Dieu que la loi a été engendrée. Je crois que ça a été parfaitement et très bien compris par tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant, le vrai problème, c'est que vous devez comprendre, comme je l'ai dit le premier jour, que dans nos rapports avec Dieu, il y a eu une évolution due aux dispensations. Pas parce que Dieu avait changé, mais parce que le cœur de l'homme, au fil des temps, s'est modifié dans ses rapports avec Dieu. Et Dieu était obligé de modifier ses rapports. Nous avons parlé de la dispensation de l'innocence, quand l'homme n'avait pas encore commis le péché. Nous avons parlé de la dispensation de la conscience, quand Dieu a pris conscience, l'homme a pris conscience de son péché. On a parlé de la dispensation du gouvernement humain, quand Noé, justement, a réussi à sauver sa famille et justement dans sa génération en construisant l'arche et la dispensation de la promesse qui vint, elle, par la promesse que Dieu fit à Abraham. Et ensuite, à cause de cette promesse, la loi fut donnée à Moïse. Mais, vous voyez, cette loi a été donnée parce qu'il avait été dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête et elle te mordra le talon. Donc, derrière tout ce que Dieu était en train de faire, il y avait premièrement la rédemption de l'homme, mais aussi la restauration de son autorité et que Satan puisse retrouver la place qui était sienne, c'est-à-dire sous les pieds de l'homme et de la femme. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia, dit Satan est sous mes pieds. Dis-le comme si tu le crois, Satan est sous tes pieds. Alléluia. Mais vous voyez, la loi ayant duré pendant longtemps, elle a eu pour ceci de polluer le système de pensée du peuple. C'est-à-dire, le peuple a commencé à penser qu'ils obtenaient ce qu'ils avaient uniquement parce qu'ils étaient capables d'obéir ou non à la loi. Mais c'est vrai, parce que justement, celui qui mettait en pratique la loi vivait par elle. Mais sauf que cette loi était donnée comme un précepteur, comme un pédagogue, juste pour guider le peuple, conduit le peuple jusqu'au libérateur appelé Christ. Car c'est Christ, justement, selon Galates 3, versets 11, 12, 13, qui lui apparaît là comme étant la postérité d'Abraham. Donc cette postérité, puisqu'il ne s'agit pas de plusieurs, mais une seule, est appelée Christ, le Messie, l'envoyé. Celui qui a en lui la solution de Dieu pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Yoshua, le libérateur, celui qui vient sauver son peuple. Et quand Jean-Baptiste le vit, il dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jean-Baptiste était en train de dire que la solution de l'humanité se trouvait dans la personne de Jésus. Les Juifs n'ont pas reconnu ce faible rejeton, ce bras étendu de l'Éternel, cette main de Dieu envoyée dans cette saison, au temps marqué, comme la Bible dit dans Galates 4, le Christ a été envoyé, un temps opportun parce que le peuple était sous l'oppression romaine et le peuple attendait un libérateur, mais Jésus n'est pas venu instaurer un royaume qui prend ses racines sur la terre et demeure sur la terre. Il est venu appeler, n'est-ce pas, le royaume des cieux à s'imposer sur la terre. Il n'est pas venu simplement établir un état, mais il est venu établir un royaume afin de permettre à chaque citoyen de ce royaume d'être un roi ayant la capacité divine en lui ou en elle de régner sur la terre comme Dieu l'avait penser. Ce n'était donc pas un gouvernement d'homme, mais un gouvernement de Dieu. Lève ta main droite, dis ce mystère est le mien. Je le saisis par la foi. Et vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, ce qui est extrêmement choquant, c'est de voir comment certaines personnes appelées au ministère de la parole ont été subtilement infiltrés, infectés, pénétrés, manipulés, désorientés par le diable, prêchant des doctrines de démons. Voilà, sous un prétexte ou sous une apparence de forte humilité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent la misère et restent toujours dans la captivité. Il est donc important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de noter ceci. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a un contexte dans lequel les paroles sont données et que donc la parole sortie de son contexte peut de façon insinueuse nous conduire à l'erreur. Vous voyez, c'est très important. On ne peut pas expliquer la parole par un fait de la parole. Il y a l'esprit de la parole qui nous conduit à la vérité de la parole. Je m'explique. Si vous prenez en fait et vous dites, il est écrit, tu ne tueras point. Vrai ou faux, est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il est vraiment écrit, tu ne tueras point? Est-ce que vous savez que c'est écrit? Mais si vous tuez un poulet chez vous et vous le mangez, est-ce que vous péchez contre la parole? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne tueras point. Mais si tu tues un poulet, est-ce que tu pèches contre Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre que dans un autre texte, il est demandé d'apporter des tourterelles, d'apporter des bœufs. Donc, ce texte, tu ne tueras point, ne peut pas être interprété comme disant Dieu a interdit de tuer. Donc, la parole de Dieu n'est pas interprétée par l'intelligence humaine, mais par elle-même. On n'a pas besoin de la pensée de l'homme pour expliquer celle de Dieu, mais la pensée de l'homme doit s'accommoder à celle de Dieu pour être à même de le faire connaître aux hommes. Mais les hommes ont fait le choix de comprendre Dieu et de l'expliquer à partir de leur propre paradigme mental qui souvent a été sérieusement biaisé. Cet apôtre Paul, comme je le disais tantôt, a été un célèbre érudit. Vous savez qu'il a étudié à l'école de Gamaliel. Et le texte que nous venons de lire tout à l'heure, soit écrit aux Romains, soit écrit aux Galates, ou soit écrit aux Colossiens, l'apôtre Paul expliquait profondément le mystère, justement, de la rédemption et de la justification par la foi. Parce qu'étant à l'école de Gamaliel, l'apôtre Paul a étudié sérieusement ce que c'était le judaïsme. Il était un expert et d'abord un précurseur, une étoile montante de cette doctrine qui faisait un impact sérieux. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a persécuté l'église, qu'il a tué les chrétiens et que Étienne a été lapidé sous instruction de l'apôtre Paul, qui à l'époque s'appelait Saül, parce qu'aucun apôtre n'est un criminel. D'accord? Et donc, il a persécuté l'église. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il rencontra donc le Seigneur. Vous voyez? Et c'est là, justement, que Dieu lui dit, Paul, Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et donc, c'est cette rencontre extraordinaire qui a changé radicalement la doctrine de Paul. Donc, les gens qui n'ont pas rencontré Jésus personnellement, qui n'ont pas une expérience personnelle avec lui, ont tendance à avoir des rapports avec Dieu bâtis sur la loi et non sur la grâce. D'accord? Mais l'apôtre Paul a fait une parfaite expérience, d'accord, de Jésus-Christ. Et dès cet instant, sa vie a basculé. Voyez, vous savez, bien-aimé, l'accès à la connaissance introduira dans ta vie une vie de célébration perpétuelle. Vous ne pouvez pas avoir accès à la vérité et mener une vie de lamentation. Non, je déclare sur ta vie, par la puissance dont je suis investi, au travers de la parole de Dieu, que tu vas célébrer les bienfaits de l'Éternel dans ta vie et dans tous les domaines concernant ton existence. Que quelqu'un me dise un parfait amen. Alléluia. Et donc c'est comme ça, malheureusement, que certains d'entre nous, n'ayant pas compris, d'accord, la profondeur de la rédemption et de la justification par la foi, nous avons ramené les gens au judaïsme, amené les gens à la pratique de la loi mosaïque, alors que par la loi, comme nous venons de dire, c'est impossible d'être justifié. La justification se paie par la foi. Regardons ensemble, parce que ce soir, je vais prendre le temps de poser des fondations sérieuses. Je sens dans mon esprit que l'esprit qui était sur Jérémie est descendu sur moi ce soir. Ça veut dire qu'il y aura la capacité d'arracher les mauvaises semences, les mauvaises plantes qui ont été mises dans ton homme intérieur et qui occultent ta destinée. Amen. Qui créent un ombrage entre ta relation et toi, de Dieu et toi. Il faut vraiment que cela soit arraché. Dis, je collabore. Dis, amen. Regardons dans le texte d'Exode 34, verset 7 à 8 que nous avons lu hier. Tournez vos Bibles parce qu'on va regarder la Bible dans la parole. Regardez à l'intérieur de vos Bibles, d'accord? Et ceux qui nous suivent de loin, Regardez ce qui est écrit. Exode 34, verset 7 à 12. Y a-t-il. Ok. Voyez la célèbre argumentation, d'accord, de la malédiction ancestrale qui va de génération en génération. La fameuse doctrine que les Africains aiment bien. Vous savez que les Africains ont un problème avec la liberté et que les Africains aiment bien quand tout le temps on soit sur eux comme des gourous. C'est pour ça que même la démocratie en Afrique a beaucoup de problèmes parce que les Africains aiment le tyrannisme. Mais en ce qui concerne vous et moi, nous ne sommes pas Africains, nous sommes citoyens de la patrie céleste. D'accord, et nous mettons de côté toute mentalité africaine pour accepter la mentalité du royaume. Dis ça, c'est mon choix. Dis amen. J'ai vu certaines personnes poser la main sur leur tête, ils ont raison, mais la main sur ta tête et dit mentalité africaine, je te débarrasse de mon système de pensée. Regardons ce qui est écrit ici. La Bible dit au verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. D'accord? Il conserve son amour jusqu'à... Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen.
Exode 34, verset 7. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne? Vous avez ce que c'est écrit dans la loi. Hein? Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent? Arrêtons-nous là un moment. Si Dieu pardonne la rébellion et le péché, et en même temps, il dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Est-ce que vous ne trouvez pas une certaine forme de contradiction? Il dit, je pardonne la rébellion et le péché. Mais il dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Continuons. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est incliné par terre et s'est prosterné. Ça veut dire quoi? Moïse étant le dépositaire de la loi, ce texte est donné à Moïse dans le contexte de la dispensation de la loi et non de la grâce. Cependant, je vous fais observer ceci. Ok? Les gens ont plus tendance à se focaliser sur la dimension de la punition. Que Dieu punit l'iniquité des pères vers les fils. Et donc, vous entendez les prédicateurs, oh, vous avez déjà entendu ça, Dieu va te frapper. Je suis arrivé à une église, on disait, Saint-Esprit, saisis-toi, 15 coups de fouet. Donc, les gens sont tellement, ont été tellement sous l'oppression, qu'ils pensent que le royaume des cieux, c'est la barbarie. Non, dis à ton voisin, ce n'est pas la barbarie, mais la liberté. Vous voyez? Vous voyez donc, on pense simplement à la punition. Dieu va te punir, Dieu va te frapper, Dieu va te faire ci. Mais vous savez, la loi installe la terreur, la loi fait peur. Et c'est pourquoi, chaque fois que vous êtes dans le système de la loi, vous êtes sous la pression de la peur. Mais on oublie qu'il a dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alors s'il conserve l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour pardonne. Non, il n'y a pas d'amour sans pardon. Là où il n'y a pas de pardon, l'amour n'est pas parfait. Donc, en quelque sorte, toutes les personnes qui demanderont pardon pour les péchés qu'ils auront commis, il n'y aura plus de raison que même eux et même leurs enfants aient des problèmes dans le contexte de la loi déjà. Parce qu'ils disent, je pardonne. Donc, il n'y aura que les rebelles qui ne seront pas repentis. D'accord? Dans le contexte de la loi. Maintenant, suivez-moi très bien. Qui est l'auteur de la loi? Dieu ou le diable? Dieu est-il légaliste ou amour? Comment est-ce que Dieu se définit? C'est un Dieu d'amour ou pas? Très bien. Bien qu'il soit juste, il est amour. Mais dans la définition de l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour ne recherche pas son intérêt. Mais recherche l'intérêt, ça veut dire que quand Dieu te donne quelque chose à faire, il ne recherche pas son intérêt, mais quand il le demande par amour pour que tu sois heureux et non malheureux. Donc l'objectif final de la loi n'était pas le malheur, mais le bonheur des hommes. Au travers de la postérité qui allait venir. Et c'est pourquoi Jean 3,16 dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors je vous pose cette question. Est-ce que les lois reçues au mont Sinaï ont annulé les lois qui ont existé avant elles? Car nous avons vu que les lois du mont Sinaï et toutes les autres prescriptions rattachées au livre de la loi n'ont pas existé avant les lois du ciel. Par exemple, la loi de l'amour. Par exemple, la loi du semer et du récolter. Par exemple, la loi de la mesure. Par exemple, la loi de la foi. Ces lois ont bien existé avant les lois mosaïques, avant le judaïsme. Mais est-ce que les lois du judaïsme ont annulé les lois de Dieu? Non. C'est pourquoi un jour, un pharisien, zélé, voyant que Jésus a réduit au silence les Sadducéens, s'approche de Jésus et lui posa cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous savez, c'était une question très subtile. Parce que la Bible disait, celui qui viole un seul commandement de la loi se rend coupable contre toute la loi. Donc demander à un docteur de la loi, qu'est-ce qu'est dans le plus grand commandement? C'était un piège. C'était une question à laquelle aucun homme d'une intelligence humaine pouvait répondre. Mais sauf que Jésus était Dieu. Et il répondit, Matthieu 22, versets 36 à 40, ok? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et suivez bien ce qu'il dit au verset 40, de ces deux commandements. Oh, s'il vous plaît. Secoue ta tête un tout petit peu, parce que là tu dois comprendre. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Donc en fait, il dit, la loi a été donnée pour intention d'amener les hommes à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Sauf que les hommes n'avaient pas la vie de Dieu et cela était impossible pour les hommes. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme eux. Vous voyez, aime ton prochain comme eux. Toi-même, mais la loi disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que l'amour était parfait? Non, parce qu'elle ne pardonnait pas, mais elle répondait aux actes tels qu'on nous a offensés. D'accord? Alors maintenant, regardez ce que dit Galates 5, verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Toute la loi est résumée par ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, Seigneur mon Dieu, donne-moi l'amour. Je veux exercer l'amour qui a été répandu dans mon esprit par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez donc qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, souvent il y a des enseignements que nous recevons qui nous semblent être tellement, tellement bibliques, tellement fantastiques. Et ils prennent toujours leur racine dans l'Ancien Testament. Un jour, j'ai entendu un enseignant faire une démonstration fantastique. Alors, dans notre relation avec Dieu, il y a trois dimensions. Il y a la dimension du parvis, il y a la dimension du lieu saint, et il y a la dimension du lieu très saint. Commencez à expliquer les chrétiens du parvis. Ensuite, les chrétiens du lieu saint. Et ensuite, les chrétiens du lieu très saint. Et de faire la mention. Moi, aujourd'hui, je me trouve à la dimension du lieu saint. Je ne suis même pas encore entré dans le lieu très saint. C'est les gens comme Moïse qui étaient dans la dimension du lieu très saint. Sauf que c'est un discours qui peut sembler parfaitement cohérent. Mais c'est une grande imbécilité, une stupidité criarde. Pourquoi? Parce que Moïse a vécu dans l'ancienne alliance. Et dans cette ancienne alliance, le voile du temple était là et n'était pas encore déchiré. Et une seule fois par an, quelqu'un qui était tiré par le sort, il entrait avec le sang pour les péchés du peuple. Donc personne de l'Ancien Testament ne peut prétendre avoir une relation plus étroite que nous dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens allaient au tabernacle et ils partaient avec leur sacrifice. Ils entraient au tabernacle. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin d'aller au tabernacle. Écoutez-moi bien. Les gens se déplaçaient pour aller rencontrer Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est déplacé pour nous rencontrer. Est-ce que ça va? Il s'est déplacé, non simplement pour nous rencontrer, mais pour faire de chacune de nos vies des tabernacles vivants. Donc, mais quand vous dites aux gens, oui, moi je suis au lieu saint, vous devez vous battre pour grandir dans les degrés. Ça devient exactement les mêmes enseignements du judaïsme et ça devient les mêmes choses qu'on enseigne dans les sectes. Je suis au troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré. Les maîtres sont au douzième. Non. Non. Vous voyez, quand on est à court de messages, il faut écouter les gens qui peuvent t'inspirer. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Souvent, le vrai problème, c'est que les gens ne savent pas quoi prêcher le dimanche ou quelle nouvelle révélation donner. Ils sont obligés de fabriquer les révélations. Non, Jean-Baptiste a prêché le même message, ça n'a pas changé son appel. Ceux qui ne sont pas appelés à enseigner les mystères, taisez-vous et asseyez-vous pour écouter d'autres. On a besoin de la vraie parole. Dieu est descendu et a fait de ton corps son temple. Oh, lève la main droite, dis mon corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite au-dedans de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me lève le matin, dans la Nouvelle Alliance, Dieu est avec moi. J'entre dans ma douche, je prends ma douche, Dieu est avec moi. Plus grave, je vais aux toilettes, même dans mes odeurs, Dieu est avec moi. C'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. C'est incroyable ce qui se passe. Il dit, je suis avec toi. Et il va plus loin. Je ne te délaisserai. Ah! Je ne t'abandonnerai. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire qu'il le dit à quelqu'un dont il connaît l'origine de l'histoire. Il le dit alors qu'il connaît le péché que tu commettras demain. Mais il dit, je ne te délaisserai pas. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de regarder à ta personne. Il s'est rendu compte que tu étais tellement loin de lui que tu ne pouvais jamais avoir une relation avec lui. Quels que soient tes efforts, qu'il a dû envoyer un Messie qui était la postérité. Il a dû répondre à Abraham qui lui a donné son fils. Il n'avait pas d'autre choix que de donner son propre fils. Est-ce que vous comprenez? Donc le Fils est venu pour notre rédemption. Bien aimé, le voile du temple est déchiré. J'en promets même les gens qui sont là. Oh Seigneur, je ne sens pas ta présence. Bien aimé, ce n'est pas le vent simplement, c'est la foi. Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit c'est la foi. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as juste besoin de le croire. Ce que sa Bible dit est vrai. Elle ne ment pas, il est présent. Dis à ton voisin, il est présent. Encore, il est présent. Alléluia. Amen. Oh non. Oh, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Tu viens de commettre un péché, il va te frapper. Non. Il ne te frappe pas parce que tu as commis un péché. Qui de vous frappe son enfant parce qu'il s'est sali? Non, 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 non. Non, il ne te frappe pas parce que tu as commis un péché. Mais tu es toi-même mal à l'aise de t'être sali dans le péché. Parce que ta nature n'est plus une nature qui s'accommode à la saleté du péché. Donc même s'il décidait de ne pas te frapper, toi-même tu ne peux plus être à l'aise. dans le péché. Parce qu'il a changé ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux plus être à l'aise. Ton moteur est conçu pour la justice, la sainteté et la droiture. Chaque fois qu'on met un autre carburant dedans, le moteur se grippe. On doit faire la vidange. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de gripper le moteur. Le péché n'a pas de place dans ton cœur. Parce que Dieu a changé le moteur de ta vie. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Non, pasteur, si tu enseignes ça, les gens vont pécher comme ils veulent. Non. J'ai dit non. On a beaucoup de personnes qui marchent en pharisien. Comment est-ce qu'ils s'habillent? Comment est-ce qu'ils parlent? Comment est-ce qu'ils font? Mais ils sont remplis de haine dans le cœur. Quand ils sont en train de prier, ils guettent la sœur. Oh, Seigneur, qu'elle ne soit pas exaucée, elle fait trop le malin. Mais vous la voyez, elle est couverte là jusque. On ne voit rien du tout. Elle arrive à l'église toujours avant tout le monde. Mais son cœur est rempli de rapide. Mais il y a une autre sœur qui est là dans son rouge à lèvres et puis des mèches chinoises ou quoi là. Qui arrive là comme ça et tout. Mais le cœur est touché par Dieu. Elle aime son Seigneur. Quand elle lève les mains, elle aime Dieu. Alléluia. Elle aime son Seigneur. Amen. Alléluia. Et la loi dit, hey, les mèches chinoises et brésiliennes ou japonaises, c'est quoi sur ta tête? La grâce dit, la grâce de Dieu te suffit. Le sang de Jésus suffit. Alléluia. Ce n'est pas à partir de l'apparence que notre justice s'accomplit, mais c'est par la foi de notre cœur. T'as vu la dame là? Elle a porté un pantalon. Elle a porté un pantalon. Et les gens commencent à s'agripper sur le pantalon. Comme si le pantalon était un problème. Porte-les-en trois si tu veux. Porte quatre. Mets les boucles que tu veux. Le chapeau que tu veux. Ce qui intéresse Dieu, c'est comment est-ce que ton cœur est décoré. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc on voit à l'église des gens qui viennent et ils sont traités comme des sous-êtres. Oh non, 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 c'est pas possible. Tu veux rencontrer qui là? Le pasteur. Pasteur, tu fais quoi dans la vie? Non, je vends. Ah le coup, c'est pas le pasteur, tu vas voir. Il faut aller voir. Vous voyez? Ça, c'est les réactions de la loi. Les réactions de la loi. On agit avec toi en fonction de ta classe. Est-ce que vous avez compris? On te respecte en fonction de tes apparences. Amen. Et on oublie que celui qui est en face ressemble exactement à Jésus. Qui a reconnu le poids de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Si on ne l'a pas reconnu, c'est normal que les gens ne te reconnaissent pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne te reconnaissent pas que tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je suis un héros. Né pour vaincre. Une terreur pour l'enfer. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, on prend les textes, on les tord, on les tourne. Vous voyez, simplement parce que les gens veulent vous faire asseoir sous eux. Vous rencontrez des gens, ils sont à l'église 7 jours sur 7. Je ne t'ai pas créé pour aller à l'église. Ça, c'est un problème. 7 jours sur 7, lundi, mardi, mercredi, jeudi, matin et soir, tu es à l'église. Si ton pasteur a échoué dans la société, et que l'église est devenue son refuge, qui te laisse régner dans la vie. On ne règne pas dans l'église, on règne dans... T'as pas compris de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que les gens soient là. Il a veillé trois fois par semaine. Pasteur, trois fois par semaine. Si tu as un problème avec ta femme, reste chez toi. Tu n'as pas amené tout le monde à l'église pour fuir ta femme. Moi, je ne comprends pas les problèmes. Vous savez, les gens, le complexe. L'homme n'a jamais été créé pour être dans l'église. L'église n'est pas le lieu du règne. Nous régnons dans la vie, non dans l'église. Jésus t'a affranchi pour régner dans la vie. J'appelle le règne sur ta vie, quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé. Je commande au règne de Dieu de s'établir dans tes membres et dans ta vie au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, Christ, Galates 3, verset 13, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Oh, dit, j'ai été racheté. Et regardez ce que le verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham, j'appelle cette bénédiction, je l'appelle sur l'assemblée. Je l'appelle sur ceux qui m'écoutent. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Suivez bien, il n'a pas dit la bénédiction d'Abraham eut pour les juifs, mais pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Lequel esprit? Le Saint-Esprit, que seuls reçoivent les fils d'adoption, par lequel on crie Abba Père. Maintenant, suivez-moi bien. Quand j'ai dit que nous n'étions pas sous la loi, les gens me disent, mais pasteur, dans ce cas, donc, que veut dire ce texte? Suivez-moi bien. L'Africain, l'Américain, l'Indonésien, l'Européen n'a jamais été sous la loi. C'est clair et net. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 12 à 13. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Donc, nous étions éloignés. Le seul peuple qui était appelé le peuple de Dieu, c'était les Juifs. Israël. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, certaines personnes, dans la mentalité de la loi, continuent de considérer Israël comme étant la nation la plus extraordinaire avec laquelle une alliance extraordinaire doit être faite. Sauf que c'est elle qui a rejeté le Messie pour que nous puissions être adoptés. D'accord? Et donc, quand la Bible parle ici, la malédiction dont on parle, Christ nous a rachetés, il y a deux dimensions. Premièrement, pour les Juifs. Le sang versé de Christ à la croix était une réponse à tous les sacrifices que la loi demandait. Chaque fois que quelqu'un péchait, il avait besoin d'apporter un sacrifice. Donc ce sacrifice était un sacrifice de sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc, mais pourquoi est-ce que le sang était versé? Quelqu'un sait pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Et parce que la vie est dans le sang. Et parce qu'il n'y a que le sang qui peut couvrir le péché ou l'ôter. Sauf que le sang des boucs, des taureaux, des tourterelles ne pouvait pas ôter le péché, mais devait le couvrir. D'accord? Donc la couverture rendait le péché invisible, mais laissait quand même la conscience de son existence. Quand on a couvert quelque chose, ce n'est jamais la même chose que quand on l'a ôté. Donc même si le péché n'était pas présent, il était consciemment installé dans le subconscient des hommes. Par la loi. Donc Christ en mourant sur la croix, délivre le peuple juif de cette malédiction. Maintenant nous, quel est notre sort? Nous, regardez bien, la Bible dit, Christ nous a délivré la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc maintenant, pour nous les païens, Christ en mourant à la croix, nous libère pas de de la loi en tant que loi pour les Juifs, mais de Romains 6, verset 23 qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Parce que tous avaient péché. Donc, selon ce texte de la loi, nous étions exclus des alliances. Donc, cette condamnation pour nous qui nous éloignait de toute adoration du Dieu vivant est ôtée pour nous. Et donc, la loi du péché et de la mort suspend son cours. Et par la loi d'esprit de vie en Jésus, nous sommes adoptés dans la famille. Donc maintenant, nous sommes délivrés. Mais de quoi? De la mort éternelle. Mais suivez-moi bien. Donc quand Jésus verse son sang, il accomplit la loi. Puisque le but final des sacrifices était le règlement du péché. Mais si le péché a ôté, la loi n'a plus le droit d'exister. Alors, pourquoi doit-on ramener les gens point sur point à la loi? Suis-je en train de dire que nous sommes sans loi? Non. Mais la loi de l'amour reste dans nos cœurs. Si j'aime Dieu, je ne fais pas ce qui est mauvais. Si j'aime mon prochain, je ne vole pas son argent. La loi de l'amour transcende toutes les lois. Elle est plus forte et plus parfaite. Parce que la loi te condamne pour les mauvaises choses que tu n'as pas faites. Mais l'amour te condamne pour les bonnes choses que tu ne fais pas. C'est-à-dire, si Dieu te met à cœur après ce message de me signer un chèque de 2 millions, et qu'à la fin, au lieu de me signer un chèque de 2 millions, tu me donnes 50 000 francs, l'amour te condamne de n'avoir pas obéi. Mais la loi n'a pas trouvé de... il n'y a rien, il n'y a aucun texte de la loi qui te condamne de n'avoir pas fait. Donc la loi est plus faible que l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc celui qui sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas. Contre Dieu, il pêche. Vous voyez, Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà de la loi. Lève ta main droite, dis, je suis au-delà de la loi. Car l'Éternel m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Vous allez aimer. Ouh là là, vous allez aimer la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Il dit, la sémence de la femme écrasera ta tête. Dans le but de Dieu n'était pas simplement la restauration de notre règne sur la terre en termes d'avoir, mais c'était aussi l'autorité, la puissance du ciel par notre vie. C'est comme ça que hier, sur cette même autorité, les testicules ont été guéris, les maladies ont disparu. Normal. Est-ce que vous me comprenez? Les ovaires ont repoussé. C'est normal. Donc, c'est normal. Quand la puissance est là, le diable est silencieux. Quand on parle sous cette loi, le royaume du diable décule. Et le règne de Dieu avance. Le règne de Dieu n'avance pas parce que je prie, mais il avance parce que je parle. Il dit, regardez le texte qu'on a lu, celui qui appelle les choses qui ne sont pas. Oh, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie? Est-ce que tu as déjà appelé? Oh, s'il te plaît, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà appelé? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'activons pas cette loi et on se plaint. Je vais te montrer dans la parole de Dieu que ta destinée sur la terre ne dépend plus de Dieu. J'ai refusé que Dieu choisisse à ma place. Tu comprendras pourquoi je te le dis. Et donc, vous voyez, dis à ton voisin, là ça devient compliqué. Voilà, regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos... Qu'est-ce que la Bible dit? Par nos offenses, est-ce qu'on était jugé? Mais on était... Je vous pose une question. Vous avez déjà vu un mort qu'on juge? Demandez au pasteur avocat, à l'avocat pasteur qui est à ma gauche. Si vous avez un cas contre quelqu'un là-bas et on dit qu'il est mort, qu'est-ce que le dossier devient? On fait quoi? On radie la procédure. Ça veut dire que contre un mort, il n'y a pas de justice. Mais la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Donc la loi n'avait pas de force contre nous. On était déjà morts. La procédure de jugement contre toi n'avait pas lieu car ton sort était scellé, tu étais mort. Mais maintenant, les Juifs avaient une espérance, pas nous, de la rédemption. offrandes par l'incirconcision de votre chair, parce qu'on n'était pas circoncis. Rappelez-vous que la circoncision était donnée à ceux qui étaient juifs. Dans ceux qui n'étaient pas juifs, n'étaient pas circoncis. Sauf ceux qui étaient rachetés comme esclaves dans la maison, qu'on circoncisait au même moment que les fils de la maison. Comme Abraham l'a fait pour ses fils et ses esclaves. Alors la Bible dit, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce. Soulignez ce qui suit. En nous faisant grâce de quoi? S'il vous plaît, lisez ça à haute voix. En nous faisant grâce de quoi? Pour toutes nos... Il nous a fait grâce des offrandes passées, pas futures. Il t'a fait grâce de quoi? S'il te plaît, est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas dans une église qui ne connaît pas la parole. Permettez-moi de continuer d'enseigner. Faisant grâce de quoi? Pour toutes nos... Est-ce que Dieu t'a pardonné toutes tes offenses? Par Jésus-Christ? Oh, s'il te plaît, lève ta main droite si tu le crois. Amen. Il t'a fait grâce pour quoi? Pour toutes tes offenses. Ça veut dire quoi? Que si j'offense Dieu aujourd'hui, je l'offense demain, je l'ai offensé hier, toutes les offenses ont été résolues à la croix par Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. La Bible dit ensuite, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Vous savez, quand Jésus est mort à la croix, on a mis sur son écriteau roi des Juifs. Mais quand on condamnait, quand on condamnait quelqu'un et qu'on le crucifiait, on mettait les charges sur sa tête pour dire, celui-ci a volé, il a fait ci, il a fait ça, c'est pour ça qu'on le tue. Donc quand il mourait sur la croix, en haut de sa tête étaient inscrits tous les péchés que toi et moi avons commis, nos pères avaient commis, nos arrière-grands-pères avaient commis. Il nous a fait grâce pour ses offenses. Donc s'il nous a graciés, d'où vient-il qu'on nous rappelle les fautes de nos pères qui ont été expiés à la croix, puisqu'il nous a fait grâce? Ça n'a aucun sens. Ça peut paraître bon, mais ce n'est pas vrai. Regardez un peu partout, on parle tout le temps de la loi, de les démons et démons. À quoi les gens ressemblent? À Dieu ou aux démons? Vous n'avez jamais vu les chrétiens qui ont la face des démons? Vous n'avez jamais vu? Jamais la joie de Dieu, jamais il s'est réjoui. Il te voit, il est fâché. Quand il te voit descendre de ta Jaguar, il dit que lui, il a péché. Parce qu'il ne comprend pas la grâce. Lui, il ne fonctionne que dans la loi. Et la loi produit la colère. C'est pour ça que les gens sont toujours énervés. Les gens de la loi sont toujours en colère. Jamais contents. Parce que la loi produit la colère. Pourquoi? Ils sont toujours en colère. Vous voyez? Ben, il nous a fait grâce. Oh, lève ta main droite, dis, Seigneur, le Seigneur m'a gracié. Encore le Seigneur m'a gracié. Alléluia. Dis, par sa croix, il m'a délivré. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Dans la mort de Jésus a introduit la grâce. Dans le sous-thème de ce message, et le sang appela la grâce. Le sang a appelé la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Une faveur imméritée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une faveur imméritée. Qu'est-ce que c'est la grâce?
Une faveur imméritée.
Qu'est-ce que c'est la grâce?
Une faveur imméritée.
Je vois cette faveur arriver dans ta vie et ta destinée par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, souvent on prend les textes de la Bible et on joue des grands spirituels. Oh, il est écrit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais ça, ce n'est pas dans notre dispensation. Ça, c'est dans la dispensation de la conscience. On a parlé comme ça au moment le truc qui a commis le péché. Dans la dispensation de la conscience, on lui a dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais ce n'est plus valable dans la nouvelle alliance. On a dit, et la femme accouchera avec douleur. Ça, c'était la punition. Mais aussi la rédemption a eu lieu. Et je peux accoucher comme les femmes d'Israël, dans la vigueur. Est-ce que vous comprenez? Sans qu'on ne soit obligé de faire toutes ces choses compliquées et me plonger dans un coma partiel pour m'en sortir. Je déclare sur ta vie que tu marcheras dans la grâce parfaite, dans la faveur parfaite, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on ne mange plus le pain par la sueur de son front, on mange le pain par la foi. Car il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tes amis feront 5 heures pour avoir 500 000. Toi, tu feras 5 minutes et tu auras 5 millions. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi bien, quand la grâce est avec toi, la grâce est avec toi, on a l'impression que le ciel a fait le complot. Les gens gagnent le marché de 5 millions, toi tu gagnes le marché de 5 milliards. Les gens vont faire la corruption, mais on cogne à ta porte pour te donner un marché. C'est ça la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé Paul, laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce que Adam a fait pour avoir Éden? Qu'est-ce que Adam a fait pour avoir Éden? Il a jeûné? Il a parlé en langue? Il est allé à l'église? Il a payé la dîme? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Éden? C'était un cadeau. Je déclare sur ta vie des provisions cadeaux de la part du ciel. La grâce de Dieu. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Dis je reçois.
Je reçois.
Dis je reçois.
Je reçois.
Dis je reçois.
Je reçois.
Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, lisez la Bible. Lisez la Bible. Nos pères n'ont-ils pas été riches en un jour? Et ne sont-ils pas sortis d'Égypte riches en un jour? Pourquoi est-ce que vous voulez dire aux gens, il faut forcément que tu passes par les escaliers pour arriver là où tu es? Quand tu vas au plateau, il y a des demi-hommes qui n'ont pas d'ascenseur. Mais tu es obligé de taper 15 étages en escalier. Mais il y a des immeubles, tu arrives, il y a des ascenseurs rapides. Dès qu'on met paf, à moins de 5 minutes, tu es en haut. Même le naturel nous explique que tout le monde ne montera pas de la même manière. Les personnes qui ont la grâce de Dieu. Ah, je relâche cette grâce sur ta destinée. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Silencieux. C'est pas les ascenseurs qui font go 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 go. Non, silencieux. Tu montes à une vitesse et tu arrives en haut. Je te vois monter dans ta position de hauteur. Je te vois installer dans l'oreille. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Je vois ton mariage venir en ascenseur. Je vois ta promotion venir comme un ascenseur. Je vois la provision arriver par ascenseur. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. N'oubliez pas que si vous expliquez tout ce qui vous arrive, il est probable que l'esprit de la loi conduit vos pas. Je reprends. Si vous expliquez tout ce qui vous arrive, il est probable que l'esprit de la loi conduit vos pas. Mais nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas expliquer tout ce qui nous arrive. Nous sommes dans la grâce. Et Dieu nous a tellement graciés qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que même Satan n'a plus la capacité, parlant de force légale, pour s'attaquer dans ta vie et t'empêcher de réussir. Parce que Satan a été dépouillé. Dis, il a été dépouillé. Encore, il a été dépouillé. Alléluia. Ton frère en Christ peut être plus dangereux que l'enfer. Chaque fois que j'ai eu des problèmes, où je me suis senti menacé, il y avait un frère en Christ derrière. Ce n'était pas simplement le diable. Je préfère avoir un démon, avoir affaire à un démon, qu'avoir affaire à un frère non converti. Parce qu'il peut être terrible. Jésus n'a pas été menacé par les démons, il a été menacé par Pierre. Il a dit, arrière de moi Satan. Parce que l'invasion du royaume des ténèbres passe toujours par des personnes mal affermies à vos côtés. Guette à gauche et guette à droite. Assieds-toi, tu es bien encadré. Dis à ton voisin, je suis sûr que ce n'est pas de toi qu'on parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la grandeur de ton roi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Répète après moi, par la foi, je saisis la grâce qui m'a été faite par la foi, j'ai un meilleur travail, un meilleur mariage, des enfants. Je règne par la foi. Le ciel relâche ses provisions à mon égard. J'annonce que la loi n'a pas d'emprise sur ma vie. Car avec l'audace de ma foi, je règne et je terrasse les géants au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il vous est arrivé de réfléchir sur la raison qui a donné vraiment à David de pouvoir vaincre Goliath? Les gens ne comprennent pas que Dieu a aimé David parce que David était un homme selon son cœur. Quelqu'un de l'Ancien Testament qui a vécu dans la grâce. Quand David arrive et qu'il voit l'armée qui est, voyez, a renu contre le peuple d'Israël. Et qu'il dit, ton serviteur ira se battre. Saül va faire quelque chose. Il va lui donner son armure. N'est-ce pas? Ses vêtements de guerre. Et il va porter les vêtements de guerre. Il va vouloir poser un pas. Il dit à Saül, je ne suis pas habitué à ça. Et il va enlever. Le vrai problème, c'est que si Dieu ne nous a pas habitués à la loi, et que nous voulons porter la loi, on ne va jamais terrasser Goliath. David n'avait pas la loi, n'était pas l'armure des combattants de son époque, mais il combattait avec sa fronde et ses cinq pieds qu'il a ramassés pour terrasser Goliath. Pourquoi veux-tu porter l'armure de la loi pour affronter les défis de la vie? Tu ne peux pas régner dans la vie avec l'armure de la loi. La loi pèse, la loi est lourde. La loi t'empêche de marcher. La loi t'empêche de faire des exploits. Mais alors que la foi te donne la victoire sur tous tes adversaires. Lève ta main droite, dis, je marche par la foi. Car l'Éternel est avec moi. Répète-le en tes propres mots. Encore. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous devons apprendre à marcher avec l'armure de la foi. Amen. Car Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Le diable a été vaincu. L'enfer a été mis en déroute. La puissance des ténèbres a été ridiculisée. Aujourd'hui, le règne de Dieu est arrivé. Le salut est arrivé. Son autorité est arrivée. La vie de Dieu est en toi. Enlève ta main droite, dis, je règne sur la terre. Car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Alléluia. Wow. Quelqu'un dit wow. Quelqu'un dit wow. Je vois quelqu'un redressé par la puissance en haut. Rappelez-vous cette femme. Elle était courbée depuis 18 ans. Et c'était le jour du sabbat. Pourquoi est-ce que Jésus prenait tant de plaisir a guéri les jours de sabbat? Parce qu'il voulait montrer aux gens qu'il était l'aboutissement de la loi et que sa présence rendait la loi silencieuse. Et les docteurs de la loi étaient là. Il a regardé la femme. La Bible dit qu'un esprit courbait. Et il a regardé. C'était une fille d'Abraham. Dit, c'était une fille d'Abraham. Encore, c'était une fille d'Abraham. Et donc, pour guérir cette femme, Jésus dit maintenant, redresse-toi. Et l'esprit la lâche. Et elle se remarche. Tout de suite, les pharisiens évoquent la loi. Oh, mais pourquoi tu fais ce miracle-là le jour du sabbat? Vous voyez, chaque fois que les gens rappellent la loi, ils sont investis dans l'esprit pharisianique. Comment est-ce qu'elle est entrée à l'église et ça ne fait que 2 mois déjà et Dieu l'a déjà visitée? Dieu ne respecte pas le nombre d'années à l'église. Les gens vont faire 25 ans, mais ils n'auront même pas posé un pas Toi, tu vas faire juste un jour et le ciel sera ouvert à cause de ta foi. Alléluia. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a évoqué l'alliance abrahamique. Il dit, et voyez, cette femme était aussi une fille d'Abraham que Satan maintenait liée. Je parle maintenant, pas à toi, mais contre tous les esprits qui ont osé s'attaquer à ta destinée et qui maintiennent certaines choses qui sont à toi en captivité. Je commande qu'ils relâchent en prise, qu'ils libèrent le territoire au nom puissant de Jésus. Car Jésus t'a libéré par son sang. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Dis, je crois au royaume des cieux. Je crois à la puissance du royaume de Dieu. Dis-le avec foi. Alléluia. Vous voyez, il faut donc, à partir d'aujourd'hui, que nous ayons une armée de personnes audacieuses dans la foi. Amen. Des personnes audacieuses dans la foi. Audacieuses qui défient la loi, qui vont au-delà de la loi pour agir par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et qu'est-ce que la loi dit? La foi dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que j'ai refusé le soin de laisser à Dieu de choisir ce qu'il veut pour moi. Dieu n'a plus envie de tout décider à ton égard. Il veut te laisser le soin toi-même de prendre des décisions pour ta destinée. Que ta foi choisisse la maison que tu habites, le lit dans lequel tu dors, les draps qui sont sur ton lit. Que la foi choisisse ton environnement. Que la foi établisse ton style de vie sur la terre et non la loi, mais la foi. Mais quand la loi est invitée, la peur s'installe. Mais je vois le Dieu te délivrer de toutes tes peurs. Il est écrit dans Psaume 34, verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs. Quand tu rencontres Dieu, il te délivre de toutes tes peurs. Lève ta main droite, dis, je suis délivré de toutes mes peurs. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit délivré de toutes tes peurs. Et écoutez-moi bien, il y avait un homme paralytique qui a entendu que Jésus enseignait quelque part. Il ne pouvait pas marcher, mais il a demandé aux gens de le porter. Écoute-moi bien. Il est probable qu'il y ait certaines personnes d'entre nous qui n'arrivent pas à comprendre. Mais choisis quatre personnes qui te portent jusqu'au maître. Bien-aimé, on ne peut pas rencontrer Jésus et repartir comme on était. Impossible. Cet homme l'avait compris. Quand il est arrivé, il n'y avait plus de place pour passer. Il dit, perce-le toi. Jette-moi à travers. Les quatre hommes disent, mais tu vas mourir. Il dit, à quoi ça sert de vivre quand la vie est à l'intérieur? De vivre un film à l'extérieur alors que la vie est dedans. Il dit, jette-moi à l'intérieur. Au moins je suis sûr que quand j'atterris, si j'arrive mort, ce gars est la résurrection. Alléluia. Ce gars est la résurrection et la vie. La première des choses, quand il tombe, Jésus le regarde et il dit, jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens étaient morts. Les péchés sont pardonnés. Ce gars blasphème. Pourquoi? La loi ne pardonnait pas tes péchés sans sacrifice. Et il tombe là, on dit, les péchés sont pardonnés. On commence à dire, on vous a dit, ce gars sont blasphémateurs. Comment est-ce qu'il peut dire, tes péchés sont pardonnés? Et Jésus dit, ok, puisque je crois que vous êtes en train de penser que je blague, qu'est-ce qu'il y a de plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, oh my goodness, quelqu'un sort libéré ici ce soir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il n'a pas dit le Fils de Dieu. Le même pouvoir que Jésus avait de pardonner les péchés, je les ai ce soir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Église, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, est-ce que tu es là? C'est tout ton voisin. Demande-lui s'il est là. Pasteur, est-ce que tu m'écoutes? Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralytique, lève-toi, pardonne. Non, pas marche. Prends ton lit. C'était plus facile de dire lève-toi et marche. On va dire il va prendre le temps de récupérer avant de marcher. Mais il dit lève-toi. Le lit dans lequel on t'a porté. Maintenant toi tu vas le porter. Sors d'ici avec le lit et montre aux gens le témoignage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je déclare que ce qui t'a porté est porté par tes mains comme témoignage. Alléluia. Il a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez un monsieur qui est paralytique depuis. On dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit, pas prenez, prends. Ça veut dire, non seulement il a été guéri, mais il a reçu l'onction de Samson. Capable de porter des engins de taille. Alors qu'à l'instant, il était en train de paralytique. Je vois des gens que Dieu va révolutionner ce soir par son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'appelle sur ta vie ce pouvoir extrême que Dieu a donné aux hommes comme moi afin que ta vie soit libérée de l'oppression diabolique. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Wow! Tes péchés te sont pardonnés. J'ai dit tes péchés te sont pardonnés. Écoutez-moi très bien, la grâce est terrible. La grâce a invité au royaume des cieux. Pour le premier invité était un brigand. Alors qu'il y a des gars qui ont travaillé 3 ans chassant les démons, ils ne sont pas entrés en premier. Le premier invité au royaume par Jésus était un brigand. Condamné à la croix, il dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui toi et moi, nous serons ensemble dans le royaume de mon Père. Ce n'était pas une ancienne église. Ce n'était pas un bishop. Il y a des bishops qui ne sont pas connus au ciel. Mais il y a des gens avec la foi spéciale, reconnaissant Jésus-Christ, qui ont leur nom dans le livre de vie. Alléluia! Alléluia! Les gens me demandent, mais pasteur, quand est-ce qu'on va t'ordonner? J'ai dit, quoi? Bishop? J'ai dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je ne veux porter sur ma vie aucun symbole de la loi. Je ne veux avoir rien qui me donne l'impression que les vêtements externes qualifient mon appel interne. Car quand le ciel m'a appelé, personne n'était présent. Même si les hommes le reconnaissent, je n'ai pas besoin qu'on me mette un chapeau spécial pour en faire un évêque. J'ai dépassé la responsabilité d'évêque. Sur la terre, je ne marche plus comme un évêque. Je marche comme Christ lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas un bishop. Je ne suis pas un archevêque. Est-ce que vous me comprenez? Mais je suis Christ. L'envoyé. Le Dieu. Fait homme. Comme toi tu es. Je n'ai pas besoin d'un titre pour attester que je suis appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai besoin de la grâce de Dieu sur moi. Fais comme ça, dit, je reçois. Fais comme ça, dit, je reçois. Est-ce que j'ai un problème avec ceux qui le font? Il est fait à chacun selon leur foi. Ma foi n'est pas allée dans les bishopés là. Elle est restée en Christ. Qu'il soit fait à chacun selon sa foi. S'il y a des gens parmi vous, fils, vous voulez être bishop, je vais vous ordonner bishop. Mais je connais un homme qu'on appelle Jérémie. Quand il est sorti, Dieu lui a dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais ordonné prophète des nations. Jean, vous savez, chaque fois que dans le naturel, vous voulez prouver que Dieu vous a appelé, ça peut remettre en cause l'appel du ciel. Parce que si le ciel vous a vraiment appelé, vous n'avez pas besoin de prouver. Oh, j'ai ma carte pastorale. Alléluia. J'ai ma carte d'évêque. Alléluia. Moi, j'ai le ministère en moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, pasteur, ils vont te prendre ton église. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'appel est en intérieur. Ça, ce n'est que le reflet. Vous me mettez dans mon désert du Sahara, un temple de la foi verra le jour. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le ministère est à l'intérieur. Fais comme ça, la grâce est là. Fais comme ça, la grâce est là. Fais comme ça, la grâce est là. Laissez-moi conclure pour ce soir. Ma Bible dit qu'il y avait une femme. Elle perdait le sang depuis 12 ans. C'est le meilleur exemple d'audace de la foi. Cette dame était condamnée par la loi. Notez le texte, Lévitique 15, versets 25 à 28. Une femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, c'est-à-dire ses menstrues, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Lévitique 15, 25 à 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Valeureux chantre l'Éternel. Une femme qui a ses menstrues, qui perd le sang en dehors des temps de menstrues, est indisponible et impur aussi longtemps que le sang coule. Oh, la loi est sévère. Qui parmi vous en passant un concours pour être malade? Personne. Voilà une dame qui tombe malade, une dame qui perd son sang. Elle perd le sang et la loi dit, tu es impur parce que tu es malade. Qui a voulu être malade parmi vous? Personne. La Bible dit, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Ça veut dire que même si elle marche et qu'elle touche ta chemise est impure à cause de sa maladie. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc si elle t'a touché le matin en allant au boulot, ta journée est finie. Impureté jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera encore 7 jours après lesquels elle sera. Ça veut dire que même si le sang s'arrête, c'est 7 jours après qu'elle recommence à travailler. Sinon, elle est impure. Cette femme va donc entendre Jésus prêcher. Pendant longtemps, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui avait pris cette femme? Et j'ai découvert dans la parole ce que la femme avait entendu. Vous voulez savoir ce qui a changé la dame? Regardez le message qu'elle a entendu dans Matthieu 9, versets 16 à 22. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Dis à ton voisin, je ne mettrai pas une pièce de drap neuf à un vieil habit. Matthieu 9, verset 16. Car il emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Vous avez vu ça? On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Qu'est-ce qui a provoqué ce qui s'est passé? C'était l'enseignement de Jésus remettant en cause la force de la loi. La dame écoutait et tout à coup la Bible dit, Jésus se leva, le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Qu'est-ce qui a poussé une femme comme celle-là qui connaissait la condamnation de la loi à s'approcher par derrière en se disant en elle-même, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. La loi disait, si simplement tu peux toucher ses vêtements, il sera impur. Mais elle dit non, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle outrepasse la loi. Pourquoi? Parce que sa perception des choses de Dieu ont changé par l'enseignement. Elle a compris qu'on ne peut pas mêler la doctrine de la nouvelle alliance dans le drap de l'ancienne alliance. On ne peut pas mêler la vie de Dieu dans les anciens préceptes de la loi. Elle a compris que la venue de Jésus mettait fin aux ordonnances de la loi et Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es encore là? Et permettait à quiconque avait la foi de voir son histoire changer. Pas parce que le ciel avait décidé, mais parce que cette personne ayant compris a décidé de voir son histoire changer. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ce soir disent, mon histoire doit radicalement basculer? Dis, je vais au-delà de la loi. Encore, je vais au-delà de la loi. Car Dieu m'a affranchi. Et la Bible dit, Jésus se retourna et dit, la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Vous voyez, qu'est-ce que la femme a décidé de faire? De toucher les vêtements de Jésus. Maintenant, suivez-moi bien. Est-ce que vous savez que cette femme a été tellement audacieuse? Elle était guérie à cause de son audace. Le ciel n'avait pas pris de décision de la guérir. Mais elle a décidé d'être guérie. Ensuite, cette dame a utilisé les défaveurs de la loi en sa faveur. La loi disait, si tu touches, tu seras impur. Elle a donc dit, il y a trop de gens autour de Jésus. Je ne peux pas l'approcher parce que je suis malade. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à crier, impur! Les gens se sont tournés. Elle dit, le sang est en train de couler et tout le monde fuit. Parce que personne ne veut que sa journée ne soit gâchée. Venez, 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 venez. Le maître est en train de marcher. Il est devant, il est retourné. Et voici les gens qui sont tout autour. Quelqu'un d'autre. Il est trop lourd par rapport à la grâce. C'est pas grave. Je t'appelle et tu es là tout à l'heure. Voilà. Merci. La dame est ici. Ok. Jésus marche. Il ne la regarde pas. Mais le problème de la dame n'était pas, il ne m'a pas regardé. Il m'apparaît. Ce n'était pas son histoire. Mais elle dit, s'il ne me regarde pas, je le regarde. Le problème n'est pas, Dieu ne m'a pas regardé. Mais est-ce que tu as regardé à Dieu? Dieu ne m'a pas parlé, mais est-ce que tu as parlé à Dieu? Dieu n'a pas prophétisé sur ma vie. Est-ce que tu as prophétisé sur Dieu? Pour dire Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu es condamné à me bénir. Parce que je connais mon alliance. Est-ce que tu as parlé? Donc quand elle arrive, elle est tellement faible. Elle crie impur. Les gars, le boulevard est ouvert. Et Jésus continue sa marche. Et elle attrape les vêtements. Alléluia. Au même moment, Jésus s'arrête. Elle a touché le maître. Bien-aimé, elle a touché alors que le sang n'était pas encore versé. Donc elle était encore sous la loi. Mais la grâce était ambulante. Elle a touché. Mais le sang qui coulait à l'intérieur laissait lâcher une puissance qui tombait jusque sur les vêtements. Le vêtement symbole de toutes les personnes. personne appelée au sacerdoce est où un par Dieu. Si vous les touchez, parce que ce sont eux les vêtements de Christ, quelque chose arrive. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. À l'instant, elle fut guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait... Troisième chose qu'il faut comprendre, Jésus n'avait pas le programme de la guérir. Il allait chez le chef. Il y a trop de bosses dans cette église et puis on n'arrive même pas à me toucher. Touche Dieu. Jésus suivait le chef qui était venu le voir. N'oubliez pas que dans la société, il y a des gens qui peuvent déplacer facilement les pasteurs chez eux à cause de leur rang. Même Jésus a été déplacé par ce chef. Il est parti avec lui dans sa maison. Nulle part la Bible me dit qu'il y a un pauvre qui l'a transporté jusqu'à chez lui. Quand il entrait dans les maisons, il semblait qu'il entrait dans les maisons des gens qui pouvaient le recevoir. Même quand il allait chez Zachée, Zachée était encore un païen, bien païen. Il a mangé à sa table à cause de sa position. Il était court, mais il est monté sur un sycomore pour essayer de repérer le passage du roi. Elle a touché le vêtement. Et tout de suite, bien que le ciel n'avait pas un programme pour elle, elle a organisé un programme en sa faveur. Au même instant, ce n'était pas une campagne d'évangélisation, mais elle a organisé un mouvement de prière, de guérison à l'instant même. Et elle a institué elle-même la méthode par laquelle elle devait être guérie. Aucune méthode biblique ne disait qu'on est guéri par touche de vêtements. Mais elle a dit, je vais établir une méthode que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Si je puis le toucher. Alors je déclare sur ta vie ce soir, que la grâce d'en haut te touche là où toi tu touches les vêtements du maître. Au nom suprême de Jésus. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant de comprendre, j'aime cette femme, elle a choisi le jour de son miracle. Elle a choisi son jour. Ce n'est pas les gens qui disent, oh Dieu, guéris-moi quand tu veux. Elle dit aujourd'hui. Dieu va me guérir quand il veut. Non, elle a dit aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Je ne sors pas d'ici sans que le ciel ne m'ait rendu visite. Car je m'accroche aux vêtements du Seigneur. Par la foi, je touche le ciel. Et bien aimé, la dernière chose que cette femme a réussi à faire, elle est entrée dans l'histoire. Toi, tu lis son histoire aujourd'hui à cause de son audace. Alléluia. Lève ta main droite, dis, je ne vais pas mourir anonyme. Car Dieu a promis à Abraham qu'il rendra mon nom grand. Je déclare que la bénédiction sur mon nom est relâchée. Car l'Éternel, par l'indigent de la boue, pour les faire asseoir avec les grands dans leur table. Ce soir, par l'audace de ma foi, je déprogramme l'action du ciel. Et je déclare qu'à cause de mon audace, ce que j'attends m'est accordé. Ce soir même, je déclenche l'esprit de vie en Jésus. Cette loi qui me donne d'opérer dans le surnaturel. Je confesse que la peur n'a plus de pouvoir. Sur ma vie, je n'ai plus peur, car Dieu m'a affranchi de la peur. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Je n'ai plus peur. Peur du cancer, peur de la pauvreté, peur de la mort, peur de la stérilité, peur de l'inefficacité, peur de commettre des erreurs. Je n'ai plus peur. Car la vie de Dieu est dans mes membres et je règne par ciel m'a réservé. Je déclare que je possède des terres que je n'ai pas achetées, des maisons que je n'ai pas bâties. Mes maisons sont remplies par la grâce. J'annonce sur ma destinée que l'élévation est mon partage, la domination est mon héritage. Je suis sage et intelligent. Et Satan est sous mes pieds. Je prophétise la défaite de mes adversaires. Car Jésus a mis Satan sous mes pieds. Aujourd'hui, je prophétise dans les airs, sur la terre et sous la terre. Et je déclare qu'aucune puissance envoyée contre ma destinée ne saura museler l'action de Dieu à mon égard. Lève ta main dans sa présence. Lève ta main et remercions Dieu ensemble.